au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Marcel Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Nous reprenons donc nos entretiens. Dans un premier entretien, nous avions essayé de faire un peu un portrait de vous-même et la visée générale de cet avènement de la démocratie, donc les 3 puis 4 tomes que vous venez de faire paraître. Enfin, les 3 premiers tomes sont parus et le 4e paraîtra bientôt donc chez Gallimard. Nous nous sommes quittés dans notre premier entretien sur la question des gens du passé, de la façon d'entrer dans le monde des vivants et des morts, donc la façon d'entrer dans le monde commun. Je voudrais maintenant, effectivement, voir avec vous comment est-ce que, d'une façon ou d'une autre, nous pouvons entrer dans cette démocratie et distinguons à ce moment-là deux formes de démocratie. Il y a la démocratie des vivants, donc les vivants qui organisent eux-mêmes leur propre compréhension des choses, et puis il y a la tradition considérée comme une démocratie des morts. Voilà. Donc, est-ce que la démocratie des vivants n'a pas pris le pas, et c'est un peu l'objet de votre regard sur la démocratie actuelle, sur cette démocratie des morts, donc la tradition, qui est jugée comme, comme vous dites, en grande partie obsolète, renvoyée à des temps anciens, sans parler de tous les qualificatifs que l'on peut poser sur l'histoire, raciste, homophobe, machiste, etc. Et donc qui renvoie tout cela dans les calendes très anciens d'un monde à jamais et ô combien disparu à jamais. Et donc, et tant mieux, voilà, voilà. Alors, ce qui m'amène à un point qui est effectivement, alors, votre ouvrage, je parle des 4 tomes, enfin, nous ne connaissons pas encore le 4e qui va apparaître bientôt, mais votre ouvrage, donc, lui, part du principe que toute histoire est une histoire contemporaine, hein, selon le mot de Croce, et donc qu'il faut, d'une certaine façon, regarder la problématique d'aujourd'hui, donc ce que vous regardez depuis 30 ans, à savoir la démocratie et ses pathologies, pour mieux comprendre ce qui, dans le passé, peut éclairer, comprendre, nous aider à réajuster peut-être autrement la formule de la démocratie aujourd'hui. Donc je voudrais qu'on en vienne à cette analyse qui est la vôtre d'une démocratie qui est à la fois triomphante et faible, d'une démocratie qui est un horizon, qui est devenu un horizon indépassable et en même temps un horizon qui n'a pas d'horizon. Comment est-ce que vous analysez cette démocratie-là qui n'a plus d'adversaire et qui, d'une certaine façon, finit par se considérer elle-même comme son propre adversaire en se retournant, d'une certaine façon, contre elle-même. Donc je renvoie nos auditeurs à ce très très beau livre que vous avez fait il y a quelque temps, qui s'appelle « La démocratie contre elle-même » et qui reprend un certain article donc, que vous aviez fait dans la revue Le Débat.
Alors, il faut, pour comprendre, vous l'avez bien entendu derrière, en fonction de ce que je disais précédemment, pour comprendre la démocratie, il faut la situer dans son mouvement. C'est l'essentiel de l'approche que je propose. Spontanément, la démocratie étant un régime de droit, nous tendons à la définir par des institutions, des règles et des principes. C'est une approche indispensable, mais ne permet pas de comprendre ce qu'a été l'aventure de cette démocratie et l'aventure de toutes les difficultés qu'elle a eu à surmonter pour s'installer et les configurations surprenantes par lesquelles elle est passée successivement. Donc, il me semble possible d'identifier 2 grandes vagues de ce mouvement démocratique depuis la Révolution française, disons. On a une première vague qui est celle de l'installation du principe, qui se résume, en fait, on peut le dire, au suffrage universel. La démocratie représentative et le régime de ce qu'on appelle à l'époque les masses. C'est l'installation de cette démocratie se solde en même temps par une gigantesque crise qu'on voit se dessiner fin 19e, début 19e siècle, qui incube manifestement dans les années 1900 et qui va culminer après la Première Guerre mondiale dans les années 1930, où le sentiment général est que ce régime est doublement inviable, d'abord par la forme économique à laquelle il est lié, le capitalisme pour faire simple, et la question sociale qui va avec, d'autre part, le régime parlementaire, le régime représentatif qui ne représente rien et ne peut rien. Il faut que nous nous souvenions à chaque instant que la démocratie libérale consensuelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons cette chance, est le produit d'un rétablissement qui a été extrêmement difficile par rapport à une première grande crise de la démocratie dont les totalitarismes ont été l'expression paroxystique. Cette étape-là est derrière nous. Nous en sommes sortis victorieusement. Et encore faut-il, cette victoire ne se réduit pas à l'implosion de l'Union soviétique. Encore faut-il interroger les raisons, les conditions dans lesquelles elle s'est produite. Nous vivons dans des démocraties consensuelles sur le principe. La démocratie n'a plus de ses adversaires, ou réactionnaires à l'extrême droite, ou révolutionnaires à l'extrême gauche, qui promettaient chacun l'instauration d'un régime infiniment supérieur et capable de répondre aux dysfonctionnements majeurs qu'on avait pu identifier à partir du XIXe siècle. Nous sommes complètement sortis de ce paysage. Mais mon hypothèse, la grille d'analyse que je propose pour la situation actuelle des démocraties, est que nous sommes en fait dans un nouveau mouvement d'approfondissement de la démocratie qui se traduit à nouveau par une crise, une grande crise, une seconde grande crise des démocraties, complètement différente de la précédente. Nous n'avons pas à livrer la guerre d'avant. Nous sommes dans un autre univers, mais qui est aussi un univers de crise, et une crise tout à fait étonnante, puisqu'elle est faite au fond de ce succès même de la démocratie qui s'est réduite dans le moment de son triomphe à une espèce de démocratie minimale. La démocratie fait consensus parce qu'elle est celle qui demande le moins aux citoyens. C'est-à-dire, la démocratie, c'est le régime où on a le droit de ne pas s'occuper de politique. Évidemment, dans ces conditions, on conçoit très bien que ce régime consensuel, plébiscité, dont personne ne veut changer, est en même temps un régime qui perd son sens dans cette victoire. Nous savons, c'est une donnée ancienne de l'histoire, observée par beaucoup de bons auteurs, que les victoires sont ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Les défaites vous entretiennent le moral pour la revanche ou la prochaine étape. Pour sortir du trou où vous a plongé l'échec. Là, en revanche, nous n'avons plus d'horizon, effectivement. C'était l'expression que vous employez. Comme si nous étions au bout de l'histoire, mais cette fin de l'histoire ressemble à quelque chose comme un terrain vague où personne ne reconnaît plus ses petits. En ce sens-là, je crois que nous avons une situation qui ressemble, du point de vue de la structure, à la grande crise des années 1900, il y a quelque chose d'étonnamment parallèle entre le moment 1900 et le moment 2000 où nous sommes. Et en même temps, la question se pose dans des termes complètement nouveaux. Et c'est cette nouveauté-là que nous devons explorer en comprenant cette dynamique longue de la démocratie qui vient de loin et qui continue d'advenir. C'est pourquoi j'ai choisi cette expression d'avènement de la démocratie. Nous ne sommes pas dans des démocraties qui ont terminé leur travail d'invention, d'élaboration, de construction d'elles-mêmes. Nous sommes au contraire devant une nouvelle étape qui s'annonce aussi difficile que la précédente.
Là, vous avez parlé en particulier du deuxième tome donc, de votre œuvre qui s'appelle « La crise du libéralisme » en 1880-1914, où vous montrez bien qu'effectivement, il y a établissement d'une part, et puis il y a un certain nombre de poussées, enfin, d'éléments à l'intérieur, donc l'avenir, l'État-nation, l'individu de droit qui reformule d'une certaine façon, voilà. Donc 1880-1914, premier moment, voilà. Et puis deuxième crise, 1970 maintenant, où effectivement on est dans cette recrise de la démocratie. Ma question est la suivante, c'est qu'il y a juste après 1914 deux éléments, un, la guerre, et deux, les totalitarismes, qui vont reformuler, reprendre les travers de la démocratie pour y donner une réponse qui n'est pas démocratique, mais qui vient d'une certaine façon apporter des réponses aux questions ouvertes par démocratie, mais à laquelle la démocratie ne répond pas. Ma question est la suivante, c'est que vous vous dites, c'est ça l'objet de votre entreprise, il faut se réapproprier les fondements de la démocratie pour quoi ? Pour essayer d'entrevoir comment on peut en sortir ou qu'est-ce qui va advenir derrière, voilà. Considérant que dans la première crise, il y a eu la guerre et il y a eu les totalitarismes. Donc comment en sortir ? Est-ce qu'il faut en revenir à un sens grec de l'hubris, de la démesure, du cosmos, de l'ordre des choses ? Est-ce qu'il faut remettre de l'hétéronomie dans nos sociétés ? Est-ce qu'il faut en revenir à des formes de religion qui, d'une certaine façon, permettent aux individus d'être plus conscients de vivre dans quelque chose. Bref, quelle est, à votre avis, la nouvelle formule inédite qui est en train de se décider, de se dessiner, d'être entrevue? Ou, pour le dire autrement, quelle serait, selon vous, la bonne formule pour faire en sorte que nous en sortions?
Si j'avais la réponse à cette question...
Je me permets quand même de vous poser la question.
Parce mais je me la pose.
Voilà, j'imagine.
Je me la pose, mais je n'ai pas la réponse. Et je ne l'ai pas, simplement, non pas par infirmité ça, mais parce que personne ne peut l'avoir en bonne doctrine de la connaissance. Nous pouvons seulement observer ce qui se passe, prolonger les lignes et comprendre à quoi ces nouveautés qui nous intéressent correspondent. Nous sommes en effet devant une recherche de formes nouvelles de la démocratie dont je dirais, si vous voulez, qu'on peut assez bien identifier le principe général. Ce principe général, c'est un nouvel équilibre entre l'individuel et le collectif. Ce qui a caractérisé les totalitarismes, c'est l'écrasement de l'individuel au nom du collectif. Et un écrasement qui a une nouveauté extraordinaire par rapport aux anciens systèmes de domination qui pouvaient être implacables, terrifiants, les despotismes asiatiques, comme on les a appelés, qui n'étaient pas qu'asiatiques. Ils connaissaient aussi l'écrasement de l'individuel par le collectif, la notion d'individuel n'ayant même aucun sens dans un pareil cadre. La nouveauté des totalitarismes, c'est que c'est la négation de l'individuel par le collectif au nom de l'individu, est porté par le militantisme individuel allant dans le sens de la négation de lui-même. Hein ? Qu'est-ce qu'un militant totalitaire ? C'est quelqu'un qui ne veut pas exister, qui se met de son propre mouvement au service d'un collectif oppresseur jusqu'à s'y fondre et disparaître. La forme est extraordinaire, fascinante pour les témoins de l'époque qui ne comprenaient rien, en même temps ayant été, bien entendu, ces procès de Moscou, où des vétérans bolcheviques venaient dire au tribunal « J'ai été un traître, j'ai commis tous les péchés contre le parti, fusillez-moi » Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Et au fond, on est là dans le ressort même de ce qu'a été le totalitarisme, la négation de l'individu par lui-même au profit du collectif. Nous sommes passés dans un autre univers. Je veux dire, s'il y a une chose caractéristique du monde où nous sommes, c'est qu'il n'existe plus, ou résiduellement plus. Je parle naturellement du monde occidental. On peut discuter ailleurs de la manière de l'interprétation d'un certain nombre de phénomènes, par exemple les fondamentalistes. Il me semble différent, mais il y a une discussion. En tout cas, chez nous, c'est clair, l'individu a gagné. Et l'individu a gagné grâce au collectif, parce qu'il ne se crée pas tout seul. L'individu, il est le produit de ce que la collectivité lui permet d'être. La base la plus simple de l'existence individuelle étant l'éducation. Parce qu'un monde d'individu, c'est un monde d'individu éduqué. Il est très important de préciser ce point. Dans un univers de paysans analphabètes, il n'y a pas d'individu. Il y a des gens intéressés qui sont calculateurs, qui visent leur propre bénéfice, naturellement. Mais il n'y a pas d'individu au sens juridique, au sens anthropologique, au sens institutionnel du monde moderne. Nous avons vu un triomphe sans précédent du principe d'individualité qui est la caractéristique obvie de l'univers social dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est ce caractère d'exacerbation d'un individualisme produit par la société mais se retournant contre la société et en particulier contre la société politique que c'est à cet individualisme-là et à sa radicalisation que nous devons, pour l'essentiel, la crise nouvelle de la démocratie dans laquelle nous sommes. Eh bien, c'est une impasse, au même titre que l'écrasement de l'individuel par le collectif antérieur était une impasse, c'est invivable et ça ne peut pas marcher. Quand bien même le souhaiterait-on, c'est contraire à ce qui sont les principes fondamentaux qui font subsister une collectivité humaine. Et je crois que l'au-delà de la crise, mais nous voyons bien comment il se cherche dans notre monde par différents côtés, c'est effectivement une manière de réconciliation et de réarticulation de l'individuel et du collectif. Nous n'allons pas sacrifier tout ce que les individus ont conquis de marge de manœuvre, d'autonomie, de droit. Et quand je dis les individus, soyons précis, ce qu'il y a de plus significatif dans le monde individualiste que nous connaissons, c'est l'émancipation des femmes, qui a consisté tout simplement à leur reconnaître un statut d'individu qu'elles n'avaient pas. Il y avait des individus, quand on parlait d'individus, on parlait d'un chef de famille masculin adulte. Mais la famille, par ailleurs, restait un lieu inégalitaire et un lieu de dépendance. Et précisément, la phase récente d'individualisation a consisté fondamentalement à généraliser le statut d'individu en faisant naître toutes sortes de nouveaux problèmes, parce que ça concerne aussi, par exemple, les jeunes. Et ça pose évidemment la question de savoir si le bébé est un individu, quels sont vraiment ses droits d'individu. Ça pose toute une série de questions dont nous vivons quotidiennement. Donc, nous ne reviendrons pas sur tout ça. Mais en revanche, nous pouvons rêver et nous pouvons penser très sérieusement que nous verrons naître une forme de démocratie supérieure à celle que nous vivons, parce que sachant mieux articuler ces droits individuels avec le nécessaire concours collectif hors de laquelle la vie individuelle elle-même perd tout sens.
Vous insistez dans vos œuvres sur deux choses. La première, c'est que vous dites que l'individu moderne est le premier à se penser indépendamment de la société. Donc, il ne sait plus, d'une certaine façon, qu'il appartient à la société. La deuxième chose que vous dites, souvent, c'est que nous sommes passés d'un individualisme d'affirmation, où l'individu s'opposait au groupe pour exister, à un individualisme de déliaison, où, d'une certaine façon, il souhaite flotter un peu comme ça, sans attache particulière. À ma question, c'est comment est-ce qu'on réarticule, comme vous le dites, l'individuel et le collectif, sans tomber ou sans donner le sentiment de faire de la régression, c'est-à-dire de retomber dans ce que l'on veut d'une façon ou d'une autre, fuir, et sans non plus tomber dans l'un ou l'autre des deux dangers qui semblent poindre, à savoir soit la guerre, 1890-1914, soit la guerre, soit ce que vous semblez dire, c'est-à-dire une autre forme de guerre, à savoir la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire il n'y a plus que des identités, il n'y a plus que des tribus, il n'y a plus que des individus atomiques. Et donc, on rentre dans une guerre de tous contre tous. Mon identité vaut la tienne. Chaque identité s'oppose les unes aux autres. Et on retombe dans un caractère tribal d'opposition qui, paradoxalement, est quand même ce qui nous a fait entrer dans la modernité. C'est-à-dire de quitter la guerre de tous contre tous, il y a 3 siècles, pour en revenir, peut-être 3 siècles après, à cela. Alors comment est-ce qu'on, vous voyez, sans régression et en échappant peut-être à ces deux fantômes, spectres, enfin spectre plutôt, danger, la guerre, la vraie, qui ressoude les communautés, et la guerre de tous contre tous.
Je crois que ce sera cela, la question du 21e siècle, très clairement. Personne, là, je pense, n'a évidemment la réponse concrète à ces questions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est éclairer la question, montrer sa centralité, montrer son urgence, et en même temps, chercher à déchiffrer d'une manière aussi fine et aiguë que possible les formes par lesquelles les acteurs de notre monde, à leur façon, en tâtonnant, cherchent à résoudre cette difficulté. Elle se pose, en effet, à l'échelle de l'existence de tous les individus et à l'échelle de la coexistence de tous les individus. La forme minimale où nous observons cette question, c'est la civilité de tous les jours. Pourquoi sommes-nous si sensibles à cette question des incivilités? Parce que je crois qu'elle témoigne de quelque chose de très profond. C'est l'incivilité, c'est la manifestation ostensible de ce que les autres ne comptent absolument pas pour vous, puisque vous existez par vous-même. Donc, ils vous dérangent. Et vous n'avez à leur manifester aucune espèce d'égard. Vous n'avez pas surtout à remarquer même leur existence, donc vous foncez au travers parce que vous avez une conversation très importante sur votre téléphone portable et vous n'êtes pas obligé de regarder en plus autour de vous, ni bien entendu de veiller à ce que vous ne dérangiez pas ceux qui sont en proximité avec vous. Bien, je crois que c'est à des niveaux aussi élémentaires que se réinvente la coexistence, parce que l'incivil ne manque pas d'être à son tour, par exemple, l'objet d'incivilité. Et à ce moment-là, il les ressent très durement, il proteste. Et un jour, le trait de lumière se fait dans son esprit. Mais moi aussi, je me conduis comme ça. Donc je ne dois pas m'étonner que les autres me tiennent pour quantité négligeable. Par conséquent, à partir de ce moment-là, je deviens un militant de la civilité. C'est des choses comme ça qui font l'histoire et qui font bouger les choses. Nous avons un autre théâtre existentiel extrêmement important de ce travail de réarticulation qui est le couple. La famille à l'ancienne n'est plus ce qu'elle était, nous en sommes bien d'accord, mais les gens vivent toujours en couple, d'ailleurs hétérosexuels ou homosexuels, ça ne change rien. Et on sait qu'il n'y a rien de plus difficile, parce qu'il s'agit bien là d'avoir un petit collectif qui a une existence par lui-même, d'autant plus quand il y a des enfants, évidemment, mais même sans eux. Et puis, en même temps, les droits de chacun. Alors, l'expérience des individus d'aujourd'hui, c'est ça. C'est une, à tous les niveaux, une réflexion obligée sur les liens qui les engagent avec les autres et la manière dont on peut essayer d'équilibrer l'aspiration à l'indépendance, qui est dans la nature de l'individu d'aujourd'hui, et le respect de la collectivité où son existence prend du sens. Cette question-là, elle est à l'œuvre aujourd'hui partout, dans les institutions, dans le rapport au pouvoir politique. C'est là qu'il faut la chercher et qu'il faut comprendre la manière dont nous voyons se dessiner un autre univers social et politique, une autre manière de comprendre ce qu'est la démocratie. C'est de cela que vivent nos sociétés, sans le savoir, parce que c'est un travail obscur, traversé par toutes sortes de contradictions, mais dont nous voyons déjà se dessiner très bien les contours.
Oui, sauf que dans, je renvoie nos auditeurs à deux autres de vos livres, donc que vous n'avez pas fait tout seul, parce qu'effectivement, c'est des livres collectifs faits avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi. Donc le premier, c'est Pour une philosophie politique de l'éducation, et le deuxième, Conditions d'éducation. Donc dans ces livres-là, vous mettez bien en évidence que la crise de l'autorité que l'école connaît ne va pas dans le sens d'une reconnaissance d'une différence qui laisserait à supposer qu'il y a une autorité supérieure à l'enfant et que donc il y aurait quelque chose qui laisserait à supposer que je dois apprendre, moi enfant, les règles de la civilité. Donc ce que vous dites sur la proximité, sur ce terrain de renaissance ou de reformulation de la démocratie, ne semble pas être confirmé par l'analyse que vous en faites quant à la dégradation de l'éducation et à l'absence de reconnaissance de l'autorité ô combien indispensable pour que l'individu accède à lui-même.
Je ne crois pas que nous parlerions, puisque je suis associé en effet dans ce travail à ces deux amis et collègues auxquels je dois beaucoup, je ne crois pas que nous parlerions de dégradation. Je parlerai de contradiction. Ce qui est saisissant dans le monde où nous sommes, c'est l'intensité des contradictions dont est travaillé le champ éducatif. Nous sommes dans une société qui croit plus que tout autre à l'éducation, et pour laquelle d'ailleurs l'éducation est un impératif, même économique, nous le savons bien, mais par ailleurs un impératif lié au principe individualiste lui-même. Encore une fois, la capacité d'indépendance des individus s'accroît avec leur connaissance. Plus vous êtes instruit, plus vous êtes un individu potentiellement, plus vous avez de marge de manœuvre dans tous les domaines. Donc le désir d'éducation est là plus que jamais. Et en même temps, les conditions pratiques dans lesquelles y atteindre sont moins là que jamais. Nous sommes devant une de ces contradictions typiques de l'univers où nous sommes, qui sont en même temps ce qui fonde à espérer. Parce que s'il n'y avait qu'un mouvement de dégradation, nous n'aurions aucun horizon. Ce n'est pas simplement de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un univers de tensions qui peuvent quelquefois revêtir des aspects terribles à l'échelle des individus. Ils sont déchirés, littéralement, entre des directions qu'ils n'arrivent absolument plus à concilier. L'éducation, c'est un enjeu de ce point de vue-là typique, parce que c'est à la fois le lieu, par excellence, du mieux personnel. Ce qu'on apprend en s'éduquant, c'est à être davantage soi-même, comme selon la tarte à la crème contemporaine, mais qui dit quelque chose. En effet, la vie individuelle s'intensifie au travers de l'éducation. Et en même temps, l'éducation, ça consiste à apprendre ce qui est commun à tous les autres. Ce n'est pas le collectif sous l'aspect social, embrigadement, incorporation, c'est la participation et l'acceptation des règles, à la fois de ce qui vous a précédé, parce que vous n'avez rien inventé tout seul, et de ce que vous partagez avec les autres, qui est essentiellement la raison, les savoirs rationnels. C'est à cela qu'il s'agit d'accéder au travers de l'éducation. C'est-à-dire, c'est s'éduquer, c'est renoncer à penser selon son avis. Parce que mon avis est ce qu'il est, mais il vaut généralement pas grand-chose, nous le savons tous, quand nous le mesurons à celui des gens qui savent vraiment. S'éduquer, c'est accepter l'idée qu'il y en a d'autres qui savent plus que vous et qui peuvent donner, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier si vous faites le travail. Autre mot-clé qui fait problème dans le cas, c'est pas s'exprimer, c'est acquérir la juste expression de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est reconnaissable comme tel par les autres. Donc là, on est vraiment dans l'articulation de l'individuel et du collectif en plein. Oui, et de ce point de vue-là, c'est la question démocratique par excellence d'aujourd'hui.
Oui, sauf que le constat que vous en faites, l'idée suivant laquelle on donne la parole à des gens qui sans doute ne savent même pas s'exprimer ou n'ont pas les capacités à pouvoir parler, d'une part, ou tout ce que vous dites sur la difficulté d'accéder au monde commun, pour reprendre l'expression de Arendt, enfin, au monde partagé, donc à l'enfermement sur l'individu, la crise de l'autorité dont vous parlez, tout cela n'augure rien de bon quant à la reformulation que vous appelez, si ce n'est de vos voeux, ou du moins qui semble être une solution pour sortir de l'impasse, pour le dépassement. Donc, ce n'est pas par là, pour l'instant, aujourd'hui, que peut-être des pistes d'avenir peuvent naître.
Cela veut dire que nous sommes dans une crise profonde, une crise qui peut nous amener à des choses extrêmement désagréables. Vous le disiez tout à l'heure, et je crois qu'on ne saurait trop y insister, contre notre tendance naturelle à rejouer la guerre d'avant, je crois que nous ne sommes menacés aujourd'hui par aucun totalitarisme. Ce n'est plus le sujet à l'ordre du jour. Nous avons changé d'univers. Mais en termes de barbarie, la guerre de tous contre tous, nous en avons de temps en temps quelques échantillons qui arrivent à notre attention, ça peut être aussi redoutable, aussi inhumain, aussi abominable que ce qu'ont pu être les totalitarismes par le passé, même si c'est à une échelle davantage micro en général qu'à une échelle macro, ce qui est donné aux violences totalitaires, leur caractère terrible, la terreur de masse. Nous ne sommes plus menacés par la terreur de masse, mais nous pouvons être menacés par une inhumanité quotidienne extraordinairement ravageuse et insupportable à vivre comme environnement. Donc, nous sommes dans une crise très profonde, la crise des systèmes éducatifs est très profonde, mais en même temps, je crois qu'il faut garder les deux bouts.
La tension dont vous parlez.
La tension entre les deux logiques, si vous voulez. Nous sommes dans un processus de décomposition, à de certains égards, qui peut aller très loin, au-delà encore de ce que nous voyons aujourd'hui. On peut le craindre, et d'une certaine manière, toute ma démarche, et pour si elle a un sens politique, c'est une forme d'avertissement. C'est-à-dire, regardons le monde dans lequel nous vivons, et essayons, puisque nous avons acquis une certaine expérience, de nous prémunir contre ces dérives que nous voyons poindre. Mais en même temps, je ne me fais pas d'illusions sur la capacité d'un modeste interprète à avertir sa collectivité. On peut en rêver, tout au plus. Mais à côté de cette décomposition, nous sommes en même temps témoins d'un processus de recomposition qui se cherche, qui a des expressions très inégales selon les domaines, mais qui est à l'œuvre incontestablement à tous les niveaux dans notre monde et qui est ce qui nous permet de ne pas désespérer.
Mais pour en terminer sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une forme d'euphorie démocratique qui laisse à supposer que nous sommes arrivés à un moment où tout va se résoudre d'une manière ou d'une autre? Et souvenons-nous de ce que Raymond Aron disait, enfin, souvenons-nous que l'histoire est tragique. Est-ce qu'on peut arriver, ou est-ce qu'on peut parvenir, ou est-ce qu'on peut avoir comme prochaine étape une guerre, une opposition, des tragédies qui peuvent aller jusque-là, telles qu'on les a connues dans le siècle passé, voilà, parce que justement, la désarticulation du singulier et du collectif est tellement forte.
Vous parliez d'euphorie, je dirais que nous observons en effet des bouffées d'euphorie dans notre monde et un certain triomphalisme qui se manifeste notamment dans un aspect prédicant insupportable de nos démocraties, donneuses de leçons dans toutes les directions. Mais ces bouffées d'euphorie dissimulent mal un fond qui, lui, me paraît plutôt, toujours pour parler en termes psychologiques, dépressif. Et le sentiment qui me semble dominer à l'intérieur de nos démocraties, c'est l'inquiétude. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous arrivons mal à identifier, mais qui fait que ce dans quoi nous vivons n'est pas durable. J'accorde beaucoup de sens à la fortune de ce mot, qui, en effet, on voudrait du durable et on ne l'a pas, sur tous les plans. Bon, la question écologique ayant sa nécessité propre et ses particularités. Mais ça va bien plus loin, le sentiment que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'il y a quelque chose de vicié dans le principe de fonctionnement de notre monde. C'est surtout celui-là qui me paraît, ce sentiment-là, qui me paraît composer le climat spontané de nos sociétés. Et je suis, encore une fois, en matière de cataclysme, l'humanité est très inventive. C'est quand même une des espèces les plus redoutablement malfaisantes à l'égard d'elle-même qu'on ait vu dans la variété de la création. Et de ce point de vue-là, je crois que nous n'avons... Il ne faut pas... Je suis tenté de penser, par exemple, que les guerres majeures, telles que nous les avons connues par le passé, n'appartiennent plus à notre horizon. Mais il y a toutes sortes d'autres manières de faire le mal. C'est une donnée de l'histoire sur laquelle nous sommes loin d'avoir épuisé le répertoire des possibilités Et en effet, nous pourrions connaître aussi de terribles inventions dans ce domaine dans les décennies qui nous attendent.
Marcel Gauchet, merci. Et nous restons donc sur ces tensions possibles, sur ces terribles inventions et sur cette imagination insondable des êtres humains quant à la possibilité de résoudre par le conflit peut-être leurs différences. Et je donne rendez-vous donc à nos auditeurs pour un troisième entretien qui portera plus particulièrement sur le troisième tome donc de l'avènement de la démocratie qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'avènement de la démocratie, tome 3, à l'épreuve des totalitarismes 1914-1974. Marcel Gauchet, merci.
Merci à vous.